Fluxfort.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.
Fluxfort, troisième et dernier plateau de ce vendredi 22 novembre, donc pour la 39e édition du festival Entrevue. Ramon Surcheur vient de nous quitter, il s'apprête à aller présenter son film et nous recevons Farah Kassem. Bonjour Farah.
Bonjour Caroline. Bonjour alors, l'équipe. Bonjour l'audience.
Alors Sarah, je commence par vous présenter. Donc vous êtes cinéaste, vous avez votre premier long métrage We Are Inside,
ouais,
qui est dans la compétition internationale donc des longs métrages. Donc vous êtes née à Tripoli au Liban en 1987. Vous avez obtenu une licence d'études audiovisuelles à l'Académie libanaise des Beaux-Arts. Et ensuite, vous avez suivi un master en réalisation de films documentaires à Doc Nomade. Donc en quelques mots, Doc Nomade, c'est un programme international de formation à la réalisation qui est dispensé par un consortium de plusieurs universités européennes et qui permet donc aux participantes et aux participants d'étudier autant au Portugal, en Hongrie qu'en Belgique. Donc aujourd'hui, vous êtes autant réalisatrice que monteuse et vous effectuez également actuellement des recherches doctorales dans une université en Belgique. Et vous êtes également par ailleurs aussi formatrice. Donc après trois courts-métrages, We Are Inside est votre premier long-métrage. Ce n'est pas n'importe quel long-métrage puisque sa durée est de 3 heures. Dans celui-ci, vous revenez après 15 ans d'absence au Liban auprès de votre père qui est vieillissant puisque lorsque vous tournez, pendant une partie du tournage, vous avez 30 ans et lui a déjà 80 ans. Vous allez l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Donc ce film, c'est un film de chambre par plusieurs aspects. D'abord, il y a celle de votre père où il passe dans une alternance de séquences où il va s'allonger et se reposer ou alors réciter des poésies et s'exercer et vous faire des retours. Il y a la vôtre de chambre, votre chambre d'enfant, que vous tentez presque de réapprivoiser après l'avoir quitté depuis si longtemps. Il y a aussi également la chambre d'hôpital dans laquelle votre père va se retrouver à plusieurs reprises. Il y a également l'idée de chambre et d'espace clos aussi avec toutes ces réunions de cercles de poètes auxquelles votre père participe. Toutes ces réunions qui sont constituées uniquement d'hommes souvent très âgés, enfin souvent âgés. Il y a aussi tous les bureaux et les salons dans lesquels ils se retrouvent. Mais ça n'est pas seulement un film de chambre, c'est aussi un film qui ne cesse d'aller, de cheminer et d'être contaminé par l'extérieur. Il y a un petit peu différents cheminements au sein de ce film. Il y a le vôtre, celui que vous faites par la poésie pour échanger et tenter en permanence de nouer un dialogue avec votre père, en écrivant, en récitant, en allant même jusqu'à participer à une réunion du cercle de poètes. Il y a un autre cheminement qui est celui vers la disparition, puisque si dès le début du film, la mort de votre mère est évoquée, eh bien aussi c'est un film qui nous amène vers celle de votre père. Et le cheminement, je le disais, donc c'est l'arrivée du monde extérieur, puisqu'il y a la révolution de 2019 au Liban qui gronde dans les rues et qui va, à partir du mi-temps de film, vraiment s'inviter après une errance nocturne de votre part dans la ville. Il y a ce surgissement de l'extérieur et la confrontation entre l'espoir aussi que ces révoltes suscitent et l'état de création et le rapport de votre père à la poésie à la fin de sa vie. Donc première question, en fait, votre premier court-métrage réalisé en 2012 s'intitule « Mon père ressemble à Nasser » et c'est donc un court-métrage qui justement aussi qui vous confronte à votre père. Est-ce que vous aviez le pressentiment au moment de ce court-métrage qu'il y aurait matière et désir à aller vers un long métrage?
D'abord, Caroline, merci beaucoup pour cette introduction et pour votre lecture du film. Oui, justement, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur Mon père ressemble à Abdel Nasser, c'était ma manière d'essayer de trouver un vocabulaire commun pour parler de la perte, de la mort. C'était juste après j'étais quelques années après la mort de ma mère et au sein de notre famille, on avait du mal à parler de la perte. Et du coup, avec mon père, on essayait de trouver ce vocabulaire commun, de parler de c'est quoi aujourd'hui la vie sans les personnes qu'on aime. Et pendant le tournage du premier film, à chaque fois qu'on parlait de quelque chose, il prenait ses papiers pour me réciter des poèmes. Et moi, je ne comprenais rien à sa poésie. Je ne savais pas... qu'est-ce qu'il voulait dire en fait, et je cherchais pas à comprendre parce que pour moi c'était le moment où je voulais moi-même être comprise. Je ne cherchais pas la communication nécessairement. Et du coup, je pense que ça, en fait, c'est le premier film que j'ai fait avec mon père. Et puis, j'ai fait un deuxième. On a collaboré sur un deuxième où on suit l'histoire, une histoire d'amour qu'elle a eue il y a 52 ans avec une femme hongroise. Et puis, je trouve la femme hongroise et il s'est réuni après 52 ans. Alors, je pense que le médium du film est devenu pour nous un rituel, quelque chose qu'on partage ensemble, qu'on fait ensemble, où on collabore, où on passe du temps. Et l'idée de faire, de commencer le projet de We Are Inside, c'était en fait moi qui est revenue à Tripoli, au Liban, pour passer du temps avec lui, vu qu'il n'allait pas super bien. Et puis voilà, à chaque fois qu'on parlait de politique, ou voilà, de c'était quoi, être femme à Tripoli, ou mes avis politiques à moi, on allait dans des discussions et des disputes. Et puis voilà, je restais dans ma chambre et on ne se parlait pas pendant des heures. Et puis il venait toquer à ma porte avec un papier. Il me disait, est-ce que tu as lu mon dernier poème, ma fille? Et puis là, il commençait à réciter sa poésie et je ne comprenais rien, mais j'étais tellement touchée par le fait que voilà, il était pris par son récital, il était vivant. Et du coup, après, il m'a dit, écoute, viens avec moi, je veux t'inviter... je vais t'inviter à une réunion. Et puis on est parti dans un bureau d'avocat et là-bas j'ai vu ces hommes. Ils ont tous plus que 70 ans. Ils se retrouvent tous les lundis après-midi dans ce bureau d'avocat. Et puis ils ramènent de la pâtisserie. Ils sont tous diabétiques. Et puis ils partagent leur poésie, ils partagent leur mémoire, ils partagent leur vue d'un monde qui n'existe plus ou qui existe en parallèle. Et c'est vraiment une génération qui était très politique à un moment donné, très politisée à un moment donné dans leur vie. Et puis, après la guerre civile et l'occupation du régime syrien, voilà, ils ont perdu beaucoup d'amis. Et du coup, ils sont restés dans le coin. Et la poésie, d'une manière ou d'une autre, est devenue le bubble, le cocoon dans lequel ils expriment ce qui reste de leur identité. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais tellement émue, j'étais tellement touchée par leur discipline, par leur envie de dire quelque chose. Et puis, en fait, c'est mon père qui m'a dit, vu que tu es là et que tu fais rien, pourquoi tu viens pas et tu filmes au club et tu t'archives la poésie. Et j'ai dit, OK, pourquoi pas. Et c'est comme ça que le projet a commencé. Et au fur et à mesure du processus, c'est devenu une rencontre entre deux médiums. Mon médium cinématographique et son médium poétique.
Donc ça veut dire en fait que ce film, c'était autant la reprise d'une conversation par l'entremise de la caméra qui avait déjà été initiée que aussi le déplacement quelque part du dialogue avec votre père, puisque pour la première fois il y avait pour vous cette incursion dans l'espace de la poésie partagée comme objet collectif avec ces autres hommes.
Oui, exactement. Même dans le premier film, on était dans un seul intérieur, c'était l'intérieur de la maison chez nous. Là, pour une fois, j'ai senti que j'avais besoin de comprendre ce qu'il était en train de me dire. Parce que j'ai senti que c'était avec ses paroles qu'il laissait ce monde, qu'il va partir à un moment donné. Et ce qui va rester de lui, c'est ses paroles à lui. Et comme vous disiez, c'est un récit collectif qui appartient à tous ces hommes, à toutes ces générations, qui a vécu un Liban que moi je ne connais pas et que je ne vais jamais connaître. Et ce Liban va partir avec eux. Et mon père est déjà parti. Il y en a plusieurs poètes qui sont décédés. Et le club de poésie n'existe plus. Il ne se retrouve plus. Et du coup, vraiment, j'ai eu de la chance de pouvoir témoigner ce genre de rituel de ces gens voilà, qui ont vu, comme vous disiez avant, il y a les hauts et les bas de la statue contexte médical de mon père, de sa santé, mais c'est aussi les hauts et le bas d'un pays. Le Liban, elle a traversé depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait qu'un moment pendant les années 60 où voilà, c'était stable, c'était fort économiquement, mais aujourd'hui, moi, je n'ai connu que l'instabilité. Et mon père, il a connu une période où le pays était stable, où il y avait un futur. Et cette version du pays est partie avec lui et avec sa génération.
Mais d'ailleurs, c'est vrai que votre père, en fait, on le voit passer de moments d'abattement et d'épuisement intense à des moments où tout à coup, quand il va se retrouver à un moment voilà, où il doit réciter une poésie, où il est pris par une vitalité. En fait, on voit que c'est complètement ce qui le tient debout en permanence. C'est vraiment cette recherche, quelque chose qui a vraiment à voir avec l'esthète, hein, vraiment la recherche du mot juste, qui sera vraiment le mot qui a la bonne rythmique, la belle musicalité, le beau mot en même temps, puisqu'il faut pour lui aussi que les mots soient beaux. Et d'ailleurs, on reviendra justement sur comment aussi est-ce que votre père a, au fil de son parcours de poète, peut-être abandonné un versant plus politique dans son rapport à la poésie. Mais c'est vrai que ce qui est très intéressant aussi dans la façon dont la poésie chemine dans le film, c'est comme on voit à quel point c'est une sorte de vecteur ou d'élément commun partagé par énormément de personnes qui se retrouvent dans le film, que ce soit un chauffeur de taxi, que ce soit des soignants à l'hôpital. Est-ce que ça, c'était quelque chose dont vous aviez conscience avant aussi de suivre votre père pas à pas, ou est-ce que ça s'est révélé progressivement aussi la façon dont il y a comme ça un goût aussi pour la poésie qui circule d'une personne à l'autre?
Pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ça, c'est-à-dire de faire la rencontre d'un médecin qui check mon père, qui fait le check-up avec lui et puis qui décide de réciter un poème et puis il passe une demi-heure à s'échanger de la poésie. Je m'attendais pas du tout à ça et je pense que c'est comme vous disiez, cette vitalité, cette force qu'il avait, c'était magnétique. Elle attirait les gens comme mon père qui sont plusieurs au Liban, je pense, ou dans le monde arabe, ou dans le monde entier, qui essaye de s'attacher à quelque chose pour pouvoir trouver du sens à la vie, essayer de trouver cette recherche esthétique. Ça a l'air un peu pas super, je vais pas dire superficiel, mais c'est une recherche de forme. Mais je pense que cette recherche de forme vient du fait que on n'a plus envie de vivre nos propres réalités, et du coup, on essaye de trouver de la beauté. Et on cherche, et vu que le continu est tellement dur et tellement lourd, on va vers la forme. Je pense qu'il y a de ça aussi dedans. Et aussi, je voulais dire quelque chose par rapport au fait que, oui, je pense que la poésie a ralenti le temps pour lui. Elle l'a gardé vivant pendant un moment de temps. Et le fait que moi aussi, ça m'a pris 7 ans pour finir ce film, et plusieurs années pour finir le montage, c'était aussi ma manière de, même parce que voilà, il est décédé et puis j'arrivais plus à finir le film parce que j'arrivais pas à le regarder dans les images et puis à créer un monde de ces images. Et je pense que c'était aussi ma manière de refuser de lui dire au revoir et aussi de ralentir aussi le temps. Je pense que ce projet, d'une manière ou d'une autre, comme la poésie, l'a gardé un peu vivant je sais pas si c'est le cas ou pas, mais je suis sûre que le film a ralenti sa mort.
Mais alors justement, de façon très concrète, sur combien de temps le tournage s'est-il étalé? C'est vrai qu'en voyant le film aussi, moi c'est une question que je me suis posée, puisque votre père meurt en somme au bout de 2h30 de film, et la question qui a surgi pour moi immédiatement, c'est comment va-t-elle réussir à cheminer jusqu'à la fin de ce film? Donc comment aussi est-ce que vous avez traversé ça à partir de ce moment-là?
C'était très difficile. D'abord parce qu'on avait commencé sans financement, et moi je filmais tout le temps, j'essayais de trouver le langage filmique du film, j'essayais de comprendre comment j'ai envie de me cadrer moi-même, cadrer la maison, les différents intérieurs, la ville de Tripoli, les poètes, tout ça. J'en jouais avec ces limitations de ok, on va rester à l'intérieur pendant un moment, on va connaître la ville à travers cet intérieur, et puis on va dialoguer avec l'extérieur, on va voir comment ces deux champs communiquent, qu'est-ce qu'ils sont en train de dialoguer entre eux. Et après on a eu un peu de financement. Alors j'ai commencé avec le chef op du projet. On avait deux méthodologies de travail. On a filmé pendant 4 ans. La plupart du temps, moi, je filmais toute seule. Je faisais la caméra, le son, la mise en scène. Pas la mise en scène, mais je faisais tout moi-même. Et puis il y avait deux moments par an où l'équipe venait me rejoindre. Le chef op et l'ingé son. Et c'était incroyable, c'était très touchant parce que quand on est seul avec mon père, il y a cette fragilité, cette intimité qui se met en place, qui se dévoile, le temps, on se permet de prendre le temps parce qu'il n'y a rien derrière nous. Et quand l'équipe est là, je voyais toute une autre façade de lui. Et il était beaucoup plus vivant, il était beaucoup plus amusé, playful. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et en fait, j'ai dit, c'est pas que, voilà, là, c'est pas lui-même. Non, c'est sa pluralité. Et cette méthodologie m'a permis d'investiguer et d'explorer cette pluralité. Et après 4 ans de travail, voilà, l'équipe est venue 2 fois par an. Après, elle a eu la révolution. Et même avant, quand je devais écrire mes propres poésies, je savais très bien que j'allais faire cette démarche du hors-champ dans le champ. Ce trajet de 180 degrés et j'avais besoin d'avoir quelqu'un derrière la caméra qui est je voulais pas m'inquiéter, voilà, je voulais me permettre de m'intégrer complètement dans le film et aussi de jouer le rôle que j'avais envie de jouer ou de me permettre de m'immerser, ça se dit
m'immerser. Vous immerger.
Immerger, voilà. Désolée, je traduis de l'anglais. Dans ce monde. Et c'est là où Tebe Schoening et Joël Abouchapke étaient avec moi pour me permettre ce voyage. Et après, mon père et voilà. Et on faisait le montage au fur et à mesure de la production parce que j'avais besoin de voir qu'est-ce que mes scènes, mes images étaient en train de communiquer. J'avais besoin de tester le langage, de voir même d'essayer de construire une des couches que j'avais en tête, parce que dans le film, ce que j'essayais de faire, c'est d'avoir ces plusieurs couches qui font une interaction entre elles et qui créent quand même genre une sorte de crescendo. Et voilà, c'est au fur et à mesure de la production qu'on a testé les couches, qu'on a pu monter des petites scènes. Et puis, c'était super fragmenté. On a fini avec des scènes très fragmentées. Et pendant 2 ans, je n'arrivais pas avec mon monteur, Anos Jepsen. On essayait on disait, est-ce que la vie à Tripoli, elle est fragmentée? C'est pour ça qu'on finit avec des scènes fragmentées. Et puis, on s'est posé plein de questions. On aurait pu faire un film avec des scènes qui sautent d'un univers à un autre. Mais il y avait un truc que je ne sentais pas. Et puis j'ai arrêté après que mon père est décédé, j'ai pris un petit break et c'est le moment où la productrice du film Cynthia Schuker, elle est venue me rendre visite en Belgique et on a passé 10 jours à regarder 200 heures de rush, de matériel, et c'est là qu'on a compris qu'en fait on pouvait pas fuir la chronologie, on pouvait pas fuir la condensation, on avait besoin de condenser le temps. Et parce que si dans le film on isole les scènes, chaque scène toute seule, elle dit pas grand chose. Mais c'est la répétition, c'est le fait de se réveiller, la machine à laver ne marche pas, puis elle marche pas le lendemain, et puis le jour après, et la situation politique, c'est-à-dire ça va du micro au macro, ça va dans tous les sens. Et c'est ça, c'est la condensation de ce moment, de ces moments-là qui font que qui peuvent refléter, c'est quoi vivre à Tripoli entre 2017 et 2021? C'est quoi vivre dans une ville arabe du Liban et d'être témoin d'une révolution et d'être témoin d'un changement et puis voilà, recevoir la ville et permettre à la ville de nous recevoir et puis faire nos adieux à la ville et à ce monde.
Alors, vous avez évoqué notamment le moment où vous écrivez un poème. Et c'est vrai que parmi les choses qui reviennent dans votre film, il y a la dureté de votre père à votre égard, donc qui ne cesse de vous tancer lorsque vous conduisez parce que vous ne prenez pas les bonnes directions, vous ne conduisez pas comme il faut, qui ne cesse de vous reprendre, enfin, et de vous réprimander sur diverses choses. Et même lorsque vous lui soumettez pour la première fois... votre poème, il est assez dur, et c'est ensuite par la suite, vous allez voir un de ses amis poètes qui lui va vous faire des retours beaucoup plus bienveillants, et c'est au moment aussi où vous vous affirmez quelque part comme adulte face à cet adulte en participant au cercle des poètes et en lisant le poème à tout le monde, que là quelque part il vous reconnaît et il ne vous adresse pas de critique devant tout le monde. Est-ce que vous pensez aussi que c'est peut-être le dispositif du film qui vous a permis de vous autoriser à écrire, à cheminer vous-même vers l'écriture?
Moi, je pense que ce qui m'a sauvée dans ce projet, dans ce film, c'est que je ne veux pas être poète. Je ne m'attends pas à être poète. Je sais que je suis nulle en poésie et je ne cherche pas à l'être. Et je pense que ça m'a aidée à poursuivre ce processus. Parce que je savais très bien que j'avais mon propre médium. Je venais avec ça. Et mon père le voyait et il était curieux de... Parce que j'étais sérieuse, parce que j'étais vraiment en train de trouver une manière pour lui dire les choses à sa manière. Mais j'essayais, et c'était OK de ne pas créer le meilleur poème du monde. Et puis sa résistance à mon écriture, je trouvais ça intéressant au début. Mais après, à un moment donné, ça m'a pas énervée, mais j'ai senti que ça allait au-delà de ça. C'est-à-dire, c'est comme s'il me disait, ça c'est mon territoire, ça m'appartient à moi. Et tu veux venir le vivre, alors tu le vis sous des règles précises. Et pour les vivre sous des règles précises, je dois apprendre les règles. Et ça c'était tout un autre processus qu'on a filmé aussi, mais qu'on n'a pas pu intégrer dans le film. Et je pense que le fait qu'il a rien dit au Poetry Club, au cercle des poètes, c'est parce que je pense que c'est très révélateur de notre culture. Où, voilà, au Liban ou à Tripoli, on se permet les choses chez nous, dans nos intérieurs privés et intimes. Mais après, devant les poètes, il va jamais dire que sa fille, elle sait pas écrire, même si il déteste ce que j'écris. Ah oui, incroyable. Non, oui, elle est beaucoup plus poétique que moi. Oui, mais et c'est ça. Et je pense que ces nuances, c'est ce que j'essaie aussi d'explorer dans ce film. C'est quoi l'espace privé? C'est quoi l'espace public? Qui on est dans ces deux espaces? Et puis aussi, la révolution, elle permet ce genre d'explorer encore plus ce genre de dynamique. Parce que chez nous, au Liban, tout est privatisé. Et la révolution, d'une manière ou d'une autre, ça m'a permis à moi et à beaucoup de gens d'accéder à cet espace public et de le reprendre et de dire, oh, nous, on appartient à cet espace et cet espace nous appartient. Et c'est pour ça que... Et voilà, on veut dire les choses comme on veut. On veut plus être subtil. On n'est pas dans la recherche de la subtilité. On veut que le gouvernement démissionne. Voilà, et le gouvernement, il a démissionné, et puis il y a un autre gouvernement corrompu qui s'est mis en place, et puis voilà, aujourd'hui on est dans une crise économique, on est en guerre, et c'est l'enfer. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question ou pas, oui, mais je voulais dire quelque chose aussi, mais j'ai oublié, j'avais quelque chose en tête, mais j'ai complètement oublié, ok, je vais peut-être me rappeler après.
Alors, je vais vous poser une autre question, et si jamais ça vous revient, n'hésitez pas. Donc, vous parlez, voilà aussi, de l'espoir qu'a constitué cette révolution. Pour le coup, ça n'était pas du tout la vision de votre père. Et tout comme, en fait, l'un de ses amis poètes vous dit à un moment qu'aujourd'hui, la poésie de votre père est très classique et qu'il ne cherche plus justement à se renouveler, à essayer de peut-être de renouveler aussi vraiment son geste littéraire. C'est vrai que c'est une sorte de poésie qui est enclose sur elle-même et qui, par son classicisme, renvoie à un conservatisme. Or, en fait, il y a l'une des séquences dans le film qui se trouve vraiment au mi-temps du film, qui est tirée d'images d'archives, où on voit votre père prendre la parole, où là, pour le coup, il y a sa langue, il y a son lyrisme, il y a sa vitalité et il y a un positionnement politique et un engagement politique très fort. Est-ce que vous aviez conscience avant aussi de réaliser ce film qu'il y avait eu progressivement au fil de la vie de votre père un cheminement vers un conservatisme, ou c'est vraiment en travaillant aussi sur le film que vous avez découvert ça?
Je savais le passé de mon père, je le savais très bien. Et je pense que mon père, il est conservateur sur certaines pistes, mais aussi je pense qu'il est très progressiste. Et c'est ce que lui, il nie, en fait. Et c'est ce que lui, il cache. Parce que je pense qu'avec mon père, j'ai eu plein de conversations où j'ai compris qu'il était beaucoup plus de ce qu'il montrait aux gens. Et moi, aujourd'hui, avec un peu de recul, quand je regarde le film après son décès, après la Révolution, mon père, quand il défendait... Il vient d'une génération qui a passé beaucoup de temps avec les députés et les gens qui sont au pouvoir au Liban, les politiciens corrompus qui faisaient partie de la guerre civile et puis qui après étaient élus pour gouverner le Liban. Et je pense qu'il y a sûrement ce Stockholm syndrome où on attache à ces gens parce qu'on connaît pas d'autres. Et du coup, voilà, et on dit le mauvais qu'on connaît est mieux que le pire, et les gens fonctionnent de cette manière. Et je pense que sûrement il y a un côté de mon père qui il défendait pas nécessairement les politiciens, mais je pense qu'il était plutôt observateur et il se permettait une distance pour observer et pour vraiment regarder les choses où il est plus dans un jugement intellectuel, rationnel, que dans un jugement émotionnel. Et moi, dans la période où je faisais le film et pendant la Révolution, j'étais qu'une boule d'émotion. Et je pensais que j'étais beaucoup plus progressiste que lui. Et je ne pense pas que c'est le cas aujourd'hui. Je pense que... Caroline, il y a une fois où on filmait une scène avec lui où je lui ai dit « Ok, est-ce que tu peux essayer de te définir en quelques mots ?» Il m'a dit, est-ce que tu es en train de filmer? J'ai dit oui. Il m'a dit, ok, tu peux arrêter? J'ai dit, ok, j'arrête. Et puis il m'a dit, écoute, j'ai du mal à répondre à ta question parce que je sens que moi, je suis cette personne et cette personne et cette personne. Et je peux être cette personne et puis changer d'avis et devenir une autre personne et être dans une contradiction de moi-même tout le temps. Et c'est ce qui fait la richesse de qui je suis. Et je veux garder ça en moi. Et je pense que ce qui fait que voilà que je voulais faire un film avec lui, c'est parce que j'essayais de faire un mirroring, refléter la pluralité encore une fois de qui il est et qui il peut être et comment il peut changer et comment il se permet. Et pour moi, c'est ça être progressiste aujourd'hui, c'est de se permettre d'être tout et rien.
Et alors, dernière question, et nous allons vous laisser filer pour voir le film de Ramon Turcher. C'est juste, vous dites, faire ce film, c'était aussi pour savoir qui il était. Et en fait, votre film, il se termine aussi sur des séquences qui ouvrent aussi à ce que potentiellement, vous, qui vous êtes et qui vous êtes par rapport à votre père. Puisque, en fait, c'est une fin où, donc à la fin du film, il y a une autre séquence qui est tirée d'images d'archives, où là, c'est une fête familiale, je pense, si je ne m'abuse, dans le village d'origine de votre grand-père paternel. Vous lisez un texte qui était écrit par votre père, où il parle lui-même de sa relation à son père. Et ensuite, il y a trois brèves séquences. Il y en a une où on voit votre père regarder à gauche et puis partir. Ensuite, il y en a une où on vous voit dans la rue faire signe à la caméra au loin. Et ensuite, on vous voit dans la même position que votre père, comme s'il y avait... comme ça, quelque chose de l'ordre de la transmission qui se mettait en place aussi. Est-ce ainsi que vous avez construit aussi? Et qu'est-ce qui se transmet justement?
C'est la question aussi que je me pose. Parce que tout au long du film, c'était la question où la poésie, on avait l'air d'avoir une transmission avec la poésie, mais ce n'est pas mon premier choix de devenir poète. Alors que mon père et mon grand-père, ils avaient ce rapport. Mon grand-père, il adorait la poésie. Mon père, il a grandi avec ça. Et puis, c'est pour ça qu'il a commencé à réciter de la poésie, parce qu'il voulait impressionner son père. Et après, son amour pour le médium, il s'est élaboré d'une manière plus individuelle et personnelle. Et la question que je me posais tout le temps, tout au long du film, c'est qu'est-ce que j'ai envie de... C'est quoi la transmission que j'accepte entre ces générations? Qu'est-ce que j'ai envie d'hériter de mon père, de ses expériences, de comment il a vécu dans ce monde, donc comment il a vécu en tant que père, que citoyen, que frère, que poète, et qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse de côté? Parce que je pense ce que j'ai vécu moi et ce que beaucoup d'amis à moi ont vécu, c'est vraiment faire ce triage. parce qu'on n'a pas, on conscientise pas nécessairement ce triage, qu'en fait, on peut dire non à ça et prendre ça. Et ce n'est pas ni l'un ni l'autre. Et pouvoir communiquer avec eux, c'est pouvoir voilà, faire ce triage parfois ensemble. Et oui, évidemment, la dernière partie du film, c'est cette question de transmission, cette question de temporalité aussi. Parce qu'il dit, voilà, moi je suis très, je le remercie parce qu'il m'a passé cette recette du temps. Genre le présent, il fait 60%, le passé 60%, le présent 10%, et puis le futur 30%, on est à 100%, non ? Oui. et puis après, le langage rythmique du film, il suit cette recette. On ne sait plus dans quel temps on est, parce que cette transmission, elle est aussi, on pense qu'elle est chronologique, mais c'est un cercle. C'est cette transmission générationnelle, c'est un cercle. Et puis on se perd dans le temps. Et voilà.
Merci beaucoup Farah Kassem d'être venue nous parler de votre film, donc votre premier long métrage We Are Inside, qui est dans la compétition internationale, et nous vous souhaitons tout le meilleur justement pour la compétition.
Merci à vous.
Juste dire que ce film sera projeté demain à 14h, donc au cinéma Kinépolis évidemment.
Venez nombreux.
Fluxforce est terminé pour aujourd'hui, mais nous nous retrouvons demain. C'était Olivier Legras à la réalisation, merci à lui. Nicolas Bézard et Okusofu Oblu pour les questions.
Fluxfort.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.